De Arles. Donc je ne me suis pas trompé, je suis chez les gens les plus heureux d'Arles, hein? Voilà, c'est ce qu'a dit le pasteur. Donc je suis bien chez moi. Voilà, merci au frère Villa, à sa famille aussi, de m'accueillir ce matin. Donc le frère Cyril Pouget m'a dit qu'il était à Marignane, donc on a fait échange, le frère Laurent Bauchy qui devait venir, il m'a dit, ben, tu me remplaceras. Alors j'espère que je vais bien le remplacer. Chacun, on est irremplaçable, hein, en réalité. Voilà. Donc ce matin, j'ai la charge de vous annoncer le conseil de Dieu pour notre bien, notre édification, notre avancement. Comme nous l'avons chanté, nous ne voulons pas reculer. Loin de là, le Seigneur est proche, c'est le moment d'avancer, plus loin et de être prêt pour le jour de sa venue. Alors peut-être que en trois mots, je vais me présenter. Donc comme a dit le frère, je suis Jean-Marie Julien. Je suis orangeois de naissance, vauclusien, voilà. Je suis né spirituellement en Avignon, pour ceux qui connaissent. Donc je suis un vrai vauclusien. Voilà, j'ai connu le Seigneur en Avignon en 1962. Je ne sais pas si vous étiez nés, quelques-uns n'étaient pas nés. Oui, il y en a qui étaient nés. Hein. Et là, je suis né de nouveau. Donc, j'ai découvert le Seigneur, j'avais 18 ans et demi. Donc, j'étais un peu plus jeune. J'avais beaucoup de cheveux, mais ils sont partis. Hein. Ça, c'est le poids des années. Et l'appel de Dieu est venu de suite dans mon cœur et quelques années après, de retour du service militaire, eh bien, je me suis engagé dans le service de l'Église. J'étais coiffeur en Avignon, coiffeur pour dames, voilà. Mais je sais faire pour hommes, je l'ai fait à l'armée. Là, c'était facile, hein, les frères, être coiffeur à l'armée, c'est rapide. Voilà, alors d'Avignon, j'ai fait Béziers, Marseille, Félispiat, et on s'est occupé de Salon. J'ai été le premier pasteur à Salon de Provence à s'installer sur place. À l'époque, c'était en 66-70, donc 4 ans. Après, nous sommes allés à Vienne. D'ailleurs, en 70, à l'époque, je suis venu dans une petite salle qui montait je ne sais pas si c'est un truc romain, enfin, les arènes romaines, une petite salle. Aujourd'hui, c'est tout beau, hein, là-bas, c'était un peu sombre, hein, c'est une petite rue de Salon de Provence. Donc, j'étais venu à cette époque-là, il y avait un ami que je connaissais, un pasteur Armand Eloux et d'autres, bien sûr. Donc, après Vienne, après Salon de Provence, je suis allé à Vienne, 4 ans. Après Narbonne, on a fait 10 ans, on a construit. Après Marignane, donc j'étais pasteur pendant 10 ans à Marignane, j'ai construit. On m'a appelé en son temps Néhémie, mais enfin, il y a un temps pour tout, hein. Enfin, vous avez un beau local, je vous félicite parce que j'aime bien les constructions, j'ai travaillé dans les constructions et vous avez fait une très belle réalisation et c'est vraiment une grâce de Dieu d'avoir un tel local pour annoncer l'évangile. Seigneur est bon et fidèle. Voilà. Donc j'ai fait Narbonne, Marignane pendant 10 ans. Après j'ai fait un petit tour à Manosque dans les Oliviers pour prendre un peu. Et après nous avons fait notre dernier poste en Guadeloupe, donc pendant 7 ans. Et puis on est revenu à Marignane. Pour la retraite, ça fait déjà 12-13 ans. Hein. Le temps passe vite. Hein. Donc, voilà, quand même 52 ans de ministère. Voilà, un demi-siècle. Quand je fais demi-siècle, ça commence à peser un peu. Hein. Ça fait un peu lourd. Mais, comme vous le savez, ce ne sont pas les années qui sont importantes, les années de conversion, de marche. Bien sûr, on voit tout un cheminement, une fidélité du Seigneur. Mais ce qui est important, c'est de tenir bon et d'être fidèle jusqu'au bout. Hein. comme on dit souvent, nous sommes des jusqu'au boutistes, hein, pentecôtistes jusqu'au boutistes. Et le Seigneur revient bientôt, et ce n'est pas le temps de reculer, de faiblir, mais au contraire, c'est le temps de se fortifier, de s'affermir. Comme dit la Bible, les jours sont mauvais, difficiles, les temps à venir. Il y a toute l'adversité qui est là, l'opposition. Mais le Seigneur est bon, et par sa grâce, nous comptons eh bien, être debout, veillants et priants quand il va revenir. Alors ce matin, je vous propose à lire dans le livre d'Esdras, justement, un temps de renouveau, un temps de réveil, même, on peut dire, un temps de réveil, de renouveau, un temps de restauration. Chapitre 1er, verset 1er. Si vous avez... Alors c'est bien, maintenant on a la technique, on a les paroles qui s'affichent. Donc vous voyez Esdras, chapitre 1er, verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui était à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous ajouterons une lecture aussi au chapitre 3, verset 1er. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadac, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Séatiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rebâtirent l'autel sur ses fondements. Quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit. Et là, ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel. Et tous ceux quiconque faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel dès le premier jour du septième mois. Ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Amen. Voilà, nous sommes en plein renouveau, réveil et restauration. Vous savez qu'à cause de l'infidélité du peuple, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle des déportations. Il y a eu en trois étapes. Et le retour, eh bien, promis par Dieu de restaurer, de rétablir par le prophète Jérémie, eh bien, au bout de 70 ans, il y aurait ce retour, Dieu ferait grâce et restaurerait son peuple, le ramènerait à Jérusalem. On a eu la joie d'être conduit par notre frère, notre sœur en Israël, on a fait un super voyage. Donc ça me rappelle, hein. On retourne à Jérusalem. quand tu organises encore un voyage, il faut nous le dire. Hein. On est partant, on part avec toi. Enfin, on va retourner là-bas, mais en esprit, hein, si vous voulez. On va revoir un petit peu combien Dieu est celui qui prend soin de sa parole. C'est un Dieu de grâce, comme nous le proclamons. Nous l'avons loué pour son amour à notre égard. Et même s'il y a des temps d'infidélité et des conséquences, Dieu en temps voulu, eh bien, va ramener ce peuple dans ce pays pour accomplir sa mission. Il y aura 3 étapes de retour. Nous sommes à la première étape de ce retour du temps du roi païen, un roi païen, Cyrus, roi de Perse. Dieu va se servir de lui pour faire grâce au peuple et pour, comme nous l'avons lu, hein, qui d'entre vous est de son peuple ? Eh bien, qu'il aille rebâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Je me dis, si Dieu a pu agir par son esprit dans ce roi païen, à combien plus forte raison il doit agir dans le cœur de ses enfants et de son peuple et de son église. Bon, Cyrus, lui, c'est Dieu qui lui ordonnait, c'était imposé, tu vas faire cela. Nous, c'est volontaire, hein? C'est avec cœur, c'est avec amour, bien sûr, que Dieu va agir. Et nous voyons bien que les chefs de famille de Juda, les sacrificateurs, les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Donc, je dirais ce matin, tous ceux qui se sont laissés réveiller. Cyrus, lui, Dieu lui a dit, eh bien, fais ça, agis, voilà mes ordres. Tandis que le peuple qui était là, en captivité, ils se sont laissés réveiller. Alors, il y a le chiffre, hein, 42 360. Ça fait peut-être la population de Arles, hein, je ne sais pas, hein, à peu près. Ouais. Ça fait du monde quand même. Hein. Mais en réalité, c'était peu. Hein, parce que le peuple représentait, estimation, à 1 million de personnes qui étaient déportées. Donc, il y a 5% hein, qui se sont laissés réveiller. Les autres, ils ont continué à dormir. Bon, il y en a certains qui vont se réveiller après, qui vont revenir. Il va y avoir encore eh bien, des retours. Mais cela nous montre que s'il y en a 42 360, et vous voyez, c'est précis. Seigneur nous donne des nombres. On sait qu'il y avait tant de personnes. Même les chameaux, les ânes étaient comptés. Hein? Moi, ça m'a étonné. Il y avait 6700 ânes. Hein? Toutes... les chiffres, c'est les nombres. Hein. Ça me fait penser que quand il y a eu la pêche miraculeuse, il y avait 153 poissons. Précis, hein. Vous savez, les cheveux de notre tête même sont tous comptés. Avec moi, ça va plus vite. Et certains sont comme moi. Hein. Le Seigneur connaît toutes choses. Hein. Il n'arrive pas avant, il n'arrive pas après, il arrive au bon moment, il compte tout, il sait tout. Il sonde les cœurs, les reins. Et il dispose les cœurs et dans les moindres détails. Et nous pouvons le louer pour cela. Il n'y a pas de hasard, on le sait, dans les moindres détails. Le Seigneur est le maître des temps, des circonstances et des événements. Nous devons avoir une grande confiance et nous avons une grande confiance dans le Seigneur qui est notre berger, qui tient nos vies. Et même s'il y a eu des temps d'exil, de détresse, il y a des temps de grâce, de renouveau, de réveil. Une autre version, et même littéralement, il est dit, l'Éternel éveilla l'esprit. Éveilla l'esprit. Aussi bien de Cyrus que de ses 42 360, il les a éveillés. Et ce matin, nous aussi, on a besoin que Dieu, par son esprit, agisse dans nos cœurs et nous éveille, et je dirais même nous réveille. Je suis allé il y a 2 ou 3 ans au refuge. C'est un endroit l'été, on passe de bonnes vacances et il y a des moments spirituels. Et je vous dis ça parce que j'avais parlé que le Seigneur nous disait dans sa parole, et il nous le dit, et je le dis à tous, veillez. Mais on ne veille pas le jour. Hein. Vous êtes bien veillés là, oui, ça va. On ne dort pas le jour, hein. On dort la nuit. Hein. Mais être éveillé, ça veut dire que Eh bien, on résiste, c'est la nuit qu'on est éveillé. On résiste au sommeil. Et je disais, le Seigneur ne veut pas que nous dormions, mais il veut que nous restions éveillés, réveillés, n'est-ce pas? Alors, je vous dis ça parce que il y avait un petit enfant là, qui était sur le devant avec ses grands-parents. Et les grands-parents, quand j'avais prêché ça, ils sont venus me voir le lendemain, ils m'ont dit, on a eu un problème avec notre petit-fils. Parce que hier soir, il ne voulait pas dormir. Parce que vous avez dit qu'il fallait être réveillé, être éveillé, n'est-ce pas? Il a dit, le pasteur, il a dit, ah non, il ne faut pas dormir, il faut être éveillé. Il avait pris dans le sens littéral, quoi. Hein, ouais. Bon, on va le prendre dans le sens spirituel. Hein. Nous sommes éveillés spirituellement. Et il faut résister à l'endormissement, si je puis dire. Vous avez vu à Gethsémané, dans tout, ça nous arrive à tous, on peut s'endormir. Un jour, je parlais en Guadeloupe, ça me fait penser à en Guadeloupe. Je parlais sur être éveillé encore. Vous voyez, j'aime bien être éveillé, réveillé, pour agir, pour se laisser travailler par l'Esprit de Dieu. Et mon épouse m'avait dit, mais tu sais, tu parles de ça, mais sur l'estrade, ce n'est pas le cas, là, aujourd'hui. Mais comme il y avait quand même beaucoup de monde, on ne savait plus où mettre les gens, les musiciens, ils étaient obligés de rester derrière. Et il y avait un brave frère, il dormait, n'est-ce pas? Elle me dit, tu parles de réveil, il dort. Bon, peut-être je ne parlais pas assez fort, ou le Seigneur n'agit pas assez de nous éveiller, de nous réveiller. C'est-à-dire une prise de conscience qu'il fallait aller à Jérusalem. Ce n'était pas évident ça, n'est-ce pas? Partir, c'était une aventure et difficile. Prendre conscience que nous qui sommes de son peuple, enfants de Dieu, eh bien, nous devons bâtir la maison de l'Éternel. C'est l'Église. Hein. Et nous sommes des bâtisseurs. Et il y a des pierres. Mais aujourd'hui, c'est des pierres vivantes. Et pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu, hein? Parce qu'il manque encore des pierres à cet édifice. Dans cette ville, comme de partout. Il veut ajouter à son édifice. C'est un temps de bâtir, parfois de reconstruire. Il y a des temps plus difficiles que d'autres. Mais ceux qui sont éveillés aujourd'hui, ils travaillent à construire, à établir, à bâtir. Et cela demande de se lever. De se lever pour venir faire... Ah, j'ai bien aimé la liste là. Hein, faire le jardinage. Oui, on vous propose des bonnes choses. Hein. Et vous voyez, ça nous montre qu'il faut entretenir les choses, les lieux aussi, et qu'il faut travailler. Et que l'Église, elle a besoin d'ouvriers. Et je vois qu'ils se sont mobilisés, parce qu'il y a eu les sacrificateurs, les lévites, les chantres, les portiers, même ceux qui chantaient. Ils sont venus travailler, hein, pour reconstruire, pour rebâtir, pour travailler, pour édifier la maison du Seigneur. Afin que cette maison soit remplie de la présence, de la gloire divine. Comme le tabernacle, c'est la même chose. Moïse a fait l'appel et les ouvriers sont venus et ils ont bâti cette maison. Ils l'ont fait conformément à ce que Moïse avait dit, qu'il avait reçu de Dieu selon le modèle. Et le résultat, il est glorieux parce que la gloire de l'Éternel est venue remplir ce lieu. L'agrément, le Seigneur. Et ce qui fait la valeur d'un lieu, ce n'est même pas les murs et ce lieu, c'est la présence du Seigneur, la gloire de Dieu. Le Seigneur veut remplir sa maison de sa présence, de son onction, comme on a chanté, cette rivière d'amour. C'est ce qui nous fait une force, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Au jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé, c'est l'esprit qui est venu, qui est descendu. Et qui a rassemblé ses pierres, 3000 pierres, hein, plus les autres. Et puis elle va grandir, et elle grandit encore. Mais elle n'est pas terminée. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes tous, dit la Bible, ouvriers avec le Seigneur, avec la force qu'il nous donne de son esprit, non pas des capacités humaines. Vous savez, aujourd'hui, on apprend beaucoup dans toutes sortes de domaines psychiques, etc. Bon, là, et autres. Mais nous savons nous-mêmes que c'est l'Esprit de Dieu qui, un jour, a touché notre cœur, nous a pris nous a donné de prendre conscience des choses, de son amour, de l'évangile, de son appel. Nous avons répondu, nous avons cru, nous sommes levés. Mais il faut continuer, il faut persévérer jusqu'au jour de sa grâce, de l'accomplissement et la révélation de sa personne quand il va revenir. En attendant, eh bien, ils se sont laissés éveiller et ils sont venus. Les autres ont continué. Et ce matin, je voudrais vous montrer, en effet, puisque nous sommes dans un temps d'éveil, de réveil, ce que le réveil, l'Esprit de Dieu, accomplit, les fruits, les conséquences. La première des choses que je vois dans ce passage, nous ne les avons pas lues parce qu'il aurait fallu tout lire, hein, c'est au chapitre 2 et au verset 68. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on rétablisse sur le lieu où elle avait été. Donc, la première chose que nous voyons, ces gens qui se sont levés, ils ont fait tout ce voyage, il a fallu plusieurs mois pour arriver à Jérusalem. Ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, ils ont fait des offrandes volontaires pour construire ce lieu de culte. Comme vous, hein, vous avez donné et c'est le fruit de votre générosité, le fruit de vos offrandes, le fruit de votre travail que vous avez établi ce lieu. Mais spirituellement, c'est la même chose. Ils sont venus et ils ont fait des offrandes volontaires selon leurs moyens. Ils ont donné. Le réveil, en réalité, dilate notre cœur et notre portefeuille. Voilà. Je ne connais pas le trésorier, je ne connais personne ici. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu cet esprit de générosité, de don, d'amour. Puisque l'Écriture nous dit, donnez avec joie, hein, donnez selon vos moyens, vos cœurs, selon le Seigneur. Un jour, j'ai entendu cette petite histoire, je vous la raconte. C'est une maman qui avait donné à son enfant 2 pièces pour le club. Elle a dit, s'il y a une offrande, je t'en donne une pour toi, une pour toi et une pour l'offrande, 2 pièces. Donc, mais elle n'avait pas dit comment. Hein. Allez, je te donne 1 pièce de 2 euros et 1 pièce de 1 euro. En revenant du culte, elle a posé la question, elle a dit, au fait, qu'est-ce que tu as donné au culte, hein? La pièce de 2 euros ou la pièce de 1 euro, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu... Elle a dit, oui, mais la... Pas la maîtresse, hein, c'est la monitrice, hein. Elle a dit, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alors j'ai donné la pièce d'un euro. Hein. Elle a dit, j'ai donné avec plus de joie, hein, parce que j'ai gardé la 2 euros pour moi. Non. Je vous dis ça pour vous faire un peu sourire, n'est-ce pas, pour vous détendre un petit peu. Non, on n'est pas avare, hein, on n'est pas dans l'avarice. Mais c'est la générosité. Hein. Moi, je suis sûr que vous auriez donné à l'offrande la pièce de 2 euros. Hein. C'est... Donner avec joie, donner selon ses moyens. Ils ont donné, ils ont apporté. Alors vous me direz, mais il leur fallait déjà pour eux. Mais avant de partir, le roi Cyrus, il avait dit, eh bien, les restes du peuple, des gens du pays, donneront de l'or. C'est-à-dire, ils avaient reçu de l'or, de l'argent. Dieu avait pourvu afin qu'ils pourvoient. Ça, c'est merveilleux. C'est un peu comme pour le tabernacle, c'est la même chose. Avant de partir d'Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens. Hein, ils ont pris l'or, l'argent, tout ça. Mais après, ils avaient, quand on a fait l'appel pour le tabernacle, Dieu avait pourvu déjà en abondance. Donc, ils ont donné à leur retour. À tel point, je ne sais pas si vous avez remarqué, non seulement ils ont donné de l'or, de l'argent pour le chandelier, la table, tout cela, le bois. Mais à un moment donné, les ouvriers ont dit, ah non, on n'en a apporté plus. Hein? C'est comme si un jour le trésorier venait ici, il vient là, il dit, écoutez, le A, le B, le C, vous savez, les caisses d'épargne. Il est plein, le A, le B, le C, le D, n'est-ce pas, tout est plein, n'en apportez plus. Bon, ce n'est peut-être pas le cas, hein. Mais Dieu est généreux avec des généreux aussi. Hein. Dieu pourvoit, d'un côté. Il pourvoira vos besoins. Il a pourvu afin que vous pourvoyiez. Ah, je vais vous raconter encore quelque chose. Tiens. Mais ça, c'est du vécu. Hein. C'était quand nous étions à Vienne, dans l'Isère, donc c'est en 1970. Donc là, ça arrive à 71, je pense. Je ne sais pas, pour les anciens, ça rappelle qu'il y a eu, à l'époque, un froid, comme des fois, il y a des vagues de froid. Je me rappelle, dans la journée, il a fait moins 8. Je suis sorti un moment où j'ai eu peur, je suis vite rentré, n'est-ce pas ? C'était tombé à moins 15, enfin, c'était en 61... non, pardon, 71, là, il y a eu une vague de froid terrible. Donc, on était à Vienne, toute la vallée du Rhône a été bloquée, les gens, plus rien ne circulait, c'était terrible. Nous, même le fioul avait gelé dans la maison, et il a fallu qu'on déménage que des chrétiens. Nous. Bon, j'en arrive au fait. Dans l'assemblée, il y avait un couple de chrétiens, ils avaient un magasin de... accessoires d'automobiles, et à l'époque, ils fabriquaient, d'ailleurs, c'était des fabricants de batteries, de chaînes, enfin, etc. Donc, ils avaient une grosse entreprise dans cette affaire-là. Mais la question, c'est que l'église avait fait un appartement au-dessus de la salle, et c'est le frère et la sœur qui avaient prêté, à l'époque, c'était une somme considérable, quand même, je crois 10 millions de... pas d'euros, mais c'était des francs à l'époque, des vieux francs. Ils avaient prêté 10 millions de... Et il y a quelque temps avant, le frère était venu me voir, il m'a dit, les affaires ne sont pas bonnes. Vous savez, dans le commerce, c'est ça. Hein. Des fois, les affaires, elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes. Il m'a dit, si l'Église pouvait me donner, me récupérer, n'est-ce pas, de ce que j'ai prêté. Moi, quand j'ai regardé la caisse du trésorier, il m'a dit, vous savez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Elle est propre, la caisse. Donc, je me disais, comment on va faire pour aider le frère et lui rembourser un petit peu, quoi, hein, l'aider, on ne va pas le laisser en difficulté. Donc je reviens au fait, 8 jours après, vague de froid, terrible, terrible, tout est bloqué pendant 8 jours. Alors, son magasin de batterie, il a vendu tout son stock, tout le magasin tout vidé, les chaînes partout, il n'en pouvait plus, c'était des fabricants. Voilà, la sœur l'a trouvé. Les caisses se sont remplies. Il est venu me voir et il m'a dit, frère, vous deviez me rembourser, j'avais demandé. Bon, je fais don tout à l'église. Bon, merci pour... Si vous avez été bloqué ce jour-là sur l'autoroute, vous savez, les gens, ils n'ont pas su pourquoi, mais moi, je savais pourquoi, n'est-ce pas ? Enfin, nous, on a su pourquoi. Hein. Parce que des fois, on ne sait pas, hein, le mal se change en bien. En tout cas, pour l'Église, ça a été une bénédiction parce que de 10, on est passé à 0. Merveilleux. Dieu pourvoit. Hein. Il a pourvu pour eux. Ils sont partis, ils ont apporté, mais ils ont pu donner, offrir. Le réveil nous ramène toujours, quand l'Esprit de Dieu agit, à la générosité, n'est-ce pas ? Dieu aime celui qui donne avec joie. Ainsi, souvenez-vous que même des fois, bon, ce n'est pas des 10 millions, mais la veuve, hein, qu'est-ce qu'elle a donné ? Peu. 2 petites pièces. C'est comme si on donnait aujourd'hui 2 centimes. Vous voyez, s'il y avait 2 centimes à l'offrande, on dirait, ah, ben, ce n'est pas beaucoup, ça. Mais en réalité, c'était beaucoup. Parce que pour moi, Dieu ne regarde pas à ce qu'on donne. Il regarde à ce qui nous reste. Réfléchissez à ça, c'est important. C'est ce qui nous reste. On peut donner beaucoup, en réalité, il nous reste encore beaucoup. Ouf, alors, c'est pas terrible. Quoi. Mais si on a peu, qu'on donne un peu, il reste peu. Hein. Donc, Dieu regarde au cœur. Deuxièmement, le réveil nous ramène, vous voyez, il y a eu un élan de générosité pour voir la reconstruction de la maison de Dieu. Et au chapitre 3, verset 1er, il est dit « Le 7e mois arriva, les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. » Le réveil nous ramène tous à être un seul homme. L'unité, c'est important ça. L'unité, c'est-à-dire comme un seul corps. Alors, bien sûr qu'il y avait une grande diversité. Vous avez vu, il y avait des chants, des portiers. La grande diversité... n'était pas une opposition, mais une complémentarité. Nous sommes tous différents, hein, les uns des autres. Et heureusement, hein, ce serait triste, hein, si on était tous pareils. On n'est pas des clones. Hein. On n'a pas été clonés, hein, loin de là. La diversité dans le corps, heureusement. Il y a la diversité, mais il y a l'unité. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. C'est beau, c'est un miracle. C'est l'exaucement de la prière de Jésus. Jésus a prié. Père, qu'ils soient un, comme nous, pluriel, nous sommes un. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit, mais c'est l'unité, heureusement. Et nous, c'est la même chose, un seul corps, l'Église. Le réveil, c'est la générosité du cœur, c'est l'unité. J'aime bien quand il est dit dans la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, les 120 dans la chambre haute. Et c'est là que l'Esprit est descendu, ils furent tous remplis et ils ont expérimenté la grâce de Dieu, l'abondance du Seigneur. C'est là un miracle, l'unité, ensemble, comme un seul homme, hein, une seule armée, une seule force, l'unité. Et pour que nous soyons unis, il y a deux liens. Des fois, j'entends parler des mauvais liens, mais là, il y a des bons liens. Le premier lien que nous trouvons pour l'unité du corps de Christ, l'unité, c'est la communion, n'est-ce pas ? Il est dit, l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Important, capital, la paix. Nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix de Dieu, la paix du Seigneur, la paix de Jésus, et nous sommes en paix les uns avec les autres. Le corps est dans la paix. Notre paix, on ne la fabrique pas. Elle vient d'en haut, hein ? Premièrement, dans notre vie avec le Seigneur. Au plus nous avons la communion, l'unité avec le Seigneur, au plus nous avons l'unité les uns avec les autres. Le vertical amène l'horizontal, hein, les mains dans la main, le cœur dans le cœur. Et c'est ce qui s'est passé, la paix. Maintenez l'unité dans le lien de la paix. La paix, c'est quelque chose de précieux qui nous a été donné avec le Seigneur et qui nous donne de vivre en paix les uns avec les autres. Ça, c'est un lien. Comme le mariage, c'est un lien, c'est quelque chose qui nous attache. Le mot lien, ça veut dire attaché. Qu'est-ce qui nous tient ensemble ce matin ? La paix du Seigneur. Regardez Jésus quand il vient. Et il vient, ses disciples. La première chose qu'il a, la salutation, hein ? Shalom, hein ? La paix. Aller à Jérusalem, la paix. Hein. Bon, pas besoin d'aller là-bas, on peut l'avoir ici. Hein. La paix du Seigneur. Deuxième lien qui nous tient dans l'unité, c'est l'amour. Le lien de la perfection qui est l'amour. L'agapé, le fruit de l'esprit. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas l'amour. C'est l'amour qui nous unit. Hein. C'est comme dans le mariage, c'est la même chose. Qu'est-ce qui tient deux êtres différents, etc. Eh bien, c'est qu'ils vont vivre dans la paix et dans l'amour. Et si vous vivez dans la paix et dans l'amour, vous êtes unis et c'est solide. Amen. Parce que l'ennemi, la chair, veut briser, séparer. Divisé, vous avez remarqué dans ce monde aujourd'hui, de plus en plus, on dit, bon, les gens s'unissent et quatre matins après, ils se séparent parce qu'ils ne maintiennent pas la paix et l'amour. Mais quand la paix et l'amour du Seigneur règnent dans un cœur, dans un foyer, dans une église, alors nous sommes unis dans le Seigneur. Alléluia. C'est beau cela, n'est-ce pas ? C'est encourageant. Parce que le Seigneur dit, comme une poule a voulu rassembler, pour Israël, voulait rassembler comme une poule rassemble ses petits poussins. Hein, et pour les garder, les protéger, moi aussi je vous ai rassemblés. Mais Israël ne l'a pas voulu, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que le Seigneur ne peut pas nous forcer. Ils ne voulaient pas. Ils n'ont pas voulu le Seigneur, ils n'ont pas voulu la lumière, ils ont fait le mauvais choix. Nous sommes toujours dans un choix. Mais je crois que nous avons fait le bon choix. Alléluia. Hein. Parce que la Bible dit, non pas de faire l'unité, mais elle dit de la conserver. Parce que nous l'avons en Christ. si tu es en Christ, si je suis en Christ, je suis uni dans l'amour du Seigneur et dans la paix du Seigneur, parce que maintenant, c'est Christ qui règne en moi et c'est sa paix, c'est son amour qui me remplit et qui me dit, donne de vivre en communion les uns avec les autres. Merci Seigneur. Ils étaient un seul cœur, une seule âme, un seul sentiment, une seule direction pour marcher dans le Seigneur. Si mon corps, eh bien, ma main était séparée de mon corps, vous vous rendez compte? Si mes yeux, non, chaque membre est à sa place dans le corps, fonctionne, mais toujours dans l'unité et dans l'amour du Seigneur. Le réveil nous ramène à la générosité, parce qu'ils ont pourvu. Elle nous ramène d'agir ensemble comme un seul homme. Et là, qu'est-ce que nous voyons? La première chose qu'ils ont faite, après, c'est de rebâtir l'autel. Et je dirais que le réveil, quand l'Esprit de Dieu agit, il nous amène toujours à la croix, l'autel. C'est le cœur, c'est le centre. Un évangile sans la croix, c'est plus l'évangile, n'est-ce pas? L'autel, c'est le centre. Alors, ils auraient pu construire les murs. Moi, je pense qu'ici, avant de mettre les chaises, vous avez fait le plancher, les murs, le toit, tout. Hein? Et puis après, vous avez mis l'intérieur. Eux, ils ont commencé par le cœur, l'intérieur. Après, ils vont faire le temple. Après, ils vont construire. Mais la première chose qu'ils ont faite, eh bien, c'est de bâtir l'autel. La priorité, c'est l'autel, le symbole de la croix, au centre de notre vie. La vie du Seigneur et la mort de Jésus, le sacrifice. Comme dit l'Écriture dans Colossiens 1, 20, il est dit, « Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Prédication de la croix. Jésus-Christ crucifié, mort pour nous, pour tous les hommes. Vous remarquerez que Noé, quand il est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un autel pour rendre grâce à Dieu. Abraham, l'homme de la foi, qu'est-ce qu'il a bâti? Un autel. Il a bâti plusieurs autels toute sa vie. Toute sa vie. La marque, la dépendance avec Dieu, le sacrifice. Saül, roi d'Israël, qui a été, comme vous le savez, choisi, changé, mais a été désobéissant, et la Bible dit simplement que c'est à la fin de sa vie qu'il a construit un autel, comme si c'était trop tard. Il n'a pas mis le Seigneur en premier dans sa vie. Il n'a pas placé l'autel comme priorité dans sa vie. Pour nous, l'autel, c'est le centre. Mais un autel, c'est la croix, c'est le sacrifice. Mais un autel vide, non. Ils ont fait et reconstruit l'autel sur les anciens fondements. Oui. Et les anciens fondements, c'est là où Abraham avait offert Isaac. C'est là où on a construit le temple. Il suffisait de mettre sur l'ancien fondement. Et ainsi, pour offrir l'holocauste, c'est-à-dire le sacrifice de consécration. En somme, le réveil nous amène à la générosité, à l'unité, à la croix pour offrir l'holocauste. L'holocauste, c'est la consécration. Jésus a été l'holocauste parfait. L'holocauste a été le seul sacrifice entièrement brûlé pour être agréable à Dieu. Sacrifice de péché, il n'était pas dit agréable à Dieu. Ça, c'est pour revenir à Dieu. Mais l'holocauste, c'est le sacrifice de la consécration. C'est le don. Holocauste signifie Ola, O-L-A-H, qui s'élève, qui monte d'une agréable odeur, entièrement consumé par le feu. Nous parle de Christ qui s'est donné entièrement à la croix. Mais Christ s'est donné, mais nous aussi, nous nous donnons sur l'autel. Eh oui, l'autel de l'Holocauste. Quand Paul dit aux Romains, offrez vos corps. Vous me direz, mais j'ai offert mon cœur, mon âme. Oui, mais notre corps, il appartient aussi au Seigneur. Ce n'est pas simplement notre cœur, notre esprit, nos sentiments, mais notre corps entièrement doit être consacré pour le Seigneur. C'est l'autel de la consécration. Le réveil nous amène toujours à la consécration. Paul dit dans les Romains, donnez-vous vous-même à Dieu. À qui il parle? Aux païens? Non, non, c'est à nous. C'est à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Offrez vos corps. Le feu du ciel ne descend pas sur un autel vide. Souvenez-vous de Élie. Élie, justement, c'est un très bel exemple. Élie, qu'est-ce qu'il a fait pour faire revenir le cœur du peuple les Baals, n'est-ce pas? Le peuple s'était livré aux Baals, aux faux dieux. Ils avaient construit des autels pour les Baals qu'il a fallu démolir, d'ailleurs. Mais la première chose qu'a fait Élie, c'est de rebâtir l'autel. Et puis, il a placé l'Holocauste. Et puis, il a invoqué Dieu et le feu est descendu. Le feu ne descend jamais sur un autel vide. Il faut que nous soyons sur l'autel. Vous me direz peut-être, nous avons consacré notre vie, mais parfois nous descendons de l'autel. Enfin, pas pour vous, mais peut-être pour moi. Des fois, on aurait tendance à descendre un petit peu de l'autel. C'est une consécration continuelle. Parce que, remarquez ce qu'il est dit, c'est qu'ils ont offert l'holocauste, du matin et du soir. C'est-à-dire que continuellement, le feu brûlait parce qu'il y avait l'Holocauste. Et notre consécration, ce n'est pas simplement il y a 50 ans, « Ah, j'ai donné ma vie au Seigneur, maintenant je me suis consacré, corps, âme, esprit. » Mais c'est chaque jour qu'il faut que nous soyons sur l'autel, du matin au soir, afin que le feu de Dieu et l'Esprit de Dieu puissent nous embraser les uns les autres. Seigneur, que ce feu soit constamment sur ma vie, l'Holocauste. Cela nous parle que Paul disait à Timothée, « Eh bien, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. » Ranimer, une version dira, « Ranimer la flamme du don de Dieu. » Mais pour qu'elle soit ranimée sans cesse, il faut s'entretenir. S'entretenir par des psaumes, des hymnes, des louanges, des rassemblements. On a besoin d'entretenir. Faute de bois, dit un proverbe, le feu s'éteint. Mais nous, nous voulons que le feu brûle. Et pour cela, il brûle s'il y a l'offrande de notre vie. Alors nous lui offrons nos corps, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, comme un sacrifice. Ce matin, on l'a chanté, n'est-ce pas? Un sacrifice de louange. C'est d'une bonne odeur devant Dieu, hein? Mais c'est notre être tout entier. Vous savez que l'Holocauste, on le coupait en morceaux. Hein. Toutes les parties de notre vie sont consacrées à Dieu. La sanctification, c'est se séparer. La consécration, c'est se donner, c'est se vouer, c'est s'abandonner entre les mains du Seigneur. Et peut-être que nous lui avons consacré partie de notre vie, mais c'est notre vie tout entière qui doit lui être consacrée. Oui, alors, la générosité, l'unité, la croix, l'autel, la consécration. Mais remarquez ce qui est dit. Ils ont fait tout ça, c'est au verset 2, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. La fête des tabernacles qu'ils vont faire après, comme il est écrit. Ils ont fait, chaque jour on offrait un holocauste, n'est-ce pas, matin et soir, un agneau sans défaut, vous le savez. Selon ce qui était ordonné. Donc, ça nous ramène toujours à ce qui est écrit. Écrit. Pour nous, le réveil, c'est toujours non seulement la croix, mais c'est la parole et l'esprit. Parce qu'on ne peut pas dissocier ces choses. L'esprit nous amène à la parole et la parole nous amène à l'esprit. Alors, certains, ils ont dit, ce qui compte, c'est l'esprit. Alors, je fais telle expérience. Oui, mais est-ce qu'elle est conforme à la parole? Elle est selon la parole. Parce que si... On peut aller plus loin dans un sens comme dans l'autre. Alors certains ont dit, ah, il n'y a que la parole, l'esprit, on n'a pas besoin, n'est-ce pas? Mais la parole, elle peut devenir l'être qui tue, et l'égaliste. C'est l'équilibre. La vie chrétienne, en fin de compte, c'est un équilibre, selon ta parole. D'ailleurs, Élie qui a, sur le Carmel, a offert sur l'autel l'Holocauste, il a dit dans sa prière, Seigneur, j'ai fait toutes ces choses par ta parole, n'est-ce pas? Le résultat, c'est que la gloire de Dieu s'est manifestée, le feu est descendu. Moïse a construit le tabernacle, vous le savez, selon les ordres, ordonnance, ce qui est écrit, que Dieu lui a donné, comme je disais tout à l'heure, la gloire de l'Éternel est descendue. Alors c'est vrai qu'il est écrit, le diable est venu aussi, hein, il a dit, il est écrit, jette-toi du haut du temple, des anges viendront. Oui, il est écrit, mais il est aussi écrit. Alors s'il y en a bien un qui tord le sens des Écritures, un mauvais interprète, c'est bien lui, l'ennemi, qui tord le sens des Écritures. Mais nous, nous restons sur la parole. Nous sommes le peuple de la parole. Le fondement, c'est la parole. On a tout fait selon ce qui était écrit. J'aime bien Pierre quand il dit, Seigneur, tu me dis d'aller pêcher. Hein, mais j'ai travaillé toute la nuit, j'ai rien pris. Hein, mais sur ta parole, ah, heureux celui qui a fondé et qui croit sur la parole, qui agit selon la parole, qui est fondé sur la parole, qui marche selon ta parole. Parce que d'ailleurs, aimer le Seigneur, c'est garder sa parole. Hein. Si vous ne gardez pas sa parole, il y a des gens qui disent « Ah, oh, j'aime le Seigneur, je fais ci. » Oui, mais la parole, elle nous donne cette directive. Ah oui, mais ça, c'est... Oui, j'aime le Seigneur. Ce qui compte, c'est d'aimer le Seigneur. Non, c'est... celui qui aime sa parole, il garde sa parole, il la met en pratique. Et vous savez que le réveil qui va venir par Esdras, un deuxième voyage, eh bien c'est la parole, c'est l'homme de la parole. Et il étudiait la parole, il enseignait la parole et il la mettait en pratique. Hein ? Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Et ceux qui font la volonté de mon Père, c'est-à-dire qui gardent ma parole et mes commandements. Et quand on regarde dans le contexte, il est dit aussi ceci, eh bien que ils auraient pu craindre les gens du pays. Et quand on va un peu plus loin, on voit que au chapitre 4, les ennemis de Juda, de Benjamin sont venus, n'est-ce pas ? Et ils ont essayé de les décourager, de les intimider, de les gagner avec de l'argent. Et il y a tout un message. Et à la fin, c'est par la force et la violence. Donc, ils ont eu beaucoup d'opposition. Alors, ils auraient pu craindre les gens du pays au départ. Mais ils n'ont pas craint. Pourquoi ? Parce que quand le feu brûle, l'amour est là. L'amour bannit la crainte. Ils n'ont pas craint. Ils avaient la flamme, ils avaient le zèle, ils avaient l'amour. Comme à la Pentecôte, malgré les persécutions, ils ont fait face, ils ont surmonté. Et puis, à un moment donné, ils n'ont pas entretenu le feu. Le feu s'est arrêté. Et l'ouvrage de la maison de Dieu s'est arrêté. Lisez un peu plus loin. C'est arrêté. Pendant 15 ans, ça s'est arrêté. Mais heureusement, Dieu, dans son amour, a encore manifesté son esprit. Il a envoyé des prophètes âgés, n'est-ce pas ? Il a envoyé Zacharie. Et ils les ont exhortés à reprendre. Et ils ont repris. Et ils ont quand même mis 20 ans en tout. Et ils ont achevé la maison de Dieu, hein. Vous voyez qu'on peut connaître des moments difficiles, mais ils se sont remis au travail. Parce que tout cela, c'était bien, mais l'œuvre n'était pas encore achevée. Jésus a achevé l'œuvre, l'Église sera achevée, et nous, nous avons besoin d'achever le travail que le Seigneur nous a donné. Il y a encore beaucoup à faire, mais si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous. Alors, frères et sœurs, ayons cet élan de générosité, d'unité, d'amour, n'est-ce pas, de la croix et de la fidélité, parce que je sens que l'heure est arrivée. Ils se levèrent et firent la prière et dirent merci Seigneur, et bon courage, à la prochaine, et que le Seigneur vous bénisse. Mais sachez que rien n'est simple, mais que le Seigneur est fidèle, il nous tient. Sa parole s'accomplit. Alors soyons dans son plan et demeurons fidèles. Amen. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce rassemblement, pour cette église d'Arles. Tu lui donnes de marcher dans tes voies, selon ta parole, dans ton amour, dans l'unité, dans la paix, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et que tu ajoutes encore beaucoup de pierres à cet édifice. Afin que cet édifice, Seigneur, soit vraiment à la louange et la gloire de ton nom. Merci parce que tu as été fidèle jusqu'à ce jour. Tu le seras encore. Tu as pourvu et tu pourvoiras. Et tu nous tiens dans ta parole. Tu nous tiens dans ces écritures. Tu nous donnes de garder ces choses, de serrer ta parole sur notre cœur afin d'être fidèle. Donne-nous encore une vision, Seigneur, des choses à venir qui ont besoin de s'accomplir encore, de se réaliser et d'achever les choses pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci pour ton amour, ta fidélité. Garde-nous dans ta bonne main au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à bientôt.